Hébreux chapitre 5, que nous avons commencé déjà à regarder. Alors je rappelle que l'épître aux Hébreux a été écrite pour des chrétiens d'origine juive, et ces croyants se trouvaient au milieu de difficultés et de diverses épreuves. Ils étaient tentés de retourner au judaïsme, une religion faite d'ombre, d'images, de symboles, et qui apportait un semblant de sécurité. Et une telle religion amoindrit la place de Christ qui doit être la première. Et pour encourager ces chrétiens éprouvés qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, l'auteur de l'Épître va démontrer que la période de l'Ancien Testament était transitoire, était l'ombre des choses à venir, et que la réalité se trouve en Christ. L'accomplissement de tout ce qui était dit dans l'Ancien Testament trouvait son accomplissement en Christ. Cette Épître nous encourage aussi, nous chrétiens, qui devons persévérer et qui devons attendre la réalisation des promesses de Dieu. Elle nous encourage à placer notre foi en Christ seul et pas dans des symboles, des rites et tout cela. Et donc, on a déjà vu dans les chapitres précédents la supériorité de la personne de Christ. Christ était plus grand que les prophètes. Il est plus grand que Moïse. Et on va voir maintenant la supériorité du sacerdoce de Christ, en disant que Christ est plus grand que donc Aaron, les sacrificateurs dans l'ancienne alliance. On avait déjà touché un mot au chapitre 5 du sacerdoce de Melchisédek, un type de Christ. Et l'auteur de la lettre veut poursuivre plus loin avec ces juifs éprouvés, mais il a constaté qu'ils sont dans une phase de stagnation, qu'ils ne sont pas mûrs, et ce matin nous allons voir un peu la maturité spirituelle. Et ces juifs éprouvés manquaient de maturité spirituelle. Lisons Hébreux, chapitre 5, verset 11 à 14, et Hébreux chapitre 6, verset 1 à 20. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par émettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, Les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Voilà, l'auteur de l'Épître a commencé à parler du sacerdoce de Melchizedek, un type de Christ, mais il constate que ses lecteurs ont stagné, ils n'ont pas progressé spirituellement. Et il dresse un constat spirituel, inquiétant, ses lecteurs manquent de maturité spirituelle. Il leur dit qu'il a beaucoup de choses à leur dire en ce qui concerne le sacerdoce de Melchizedek. Mais ils sont tellement attachés au judaïsme qu'ils auront du mal à s'en séparer. Et s'il avait à leur expliquer ça dans le détail, il faudrait qu'ils se séparent complètement du judaïsme pour s'attacher pleinement au christianisme. Alors, les lecteurs juifs éprouvés étaient tentés de retourner au judaïsme et de négliger l'œuvre unique et suffisante de Jésus-Christ. C'est pourquoi on voit, au travers des démonstrations que l'auteur fait dans Hébreux, en prenant des références de l'Ancien Testament pour expliquer le meilleur, tout ce qu'on a de meilleur dans la Nouvelle Alliance, il va les mettre en garde à plusieurs endroits. Il y a un premier avertissement qui a été lancé dans Hébreux chapitre 2, et cet avertissement concernait la négligence de l'évangile. Il disait, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons portés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Il y a aussi un deuxième avertissement qui a été lancé, et ça concernait l'endurcissement du cœur de ces juifs par rapport à l'évangile. Il reprenait l'exemple des juifs qui étaient sortis d'Égypte et qui avaient suivi Moïse et qui étaient tombés dans le désert parce qu'ils avaient refusé d'entrer à Canaan à cause de l'endurcissement de leur cœur, à cause de l'incrédulité. Là, il dresse un troisième avertissement qui concerne leur immaturité spirituelle. Donc il a beaucoup de choses à dire à propos de Melchizedek, et il va le faire plus tard. Mais il veut souligner qu'ils doivent progresser. Et l'auteur les tient pour responsables de leur retard. Il leur dit au verset 12, « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires, c'est-à-dire les rudiments de la parole de Dieu, les éléments de base de la révélation de Dieu, comme dit la seconde 21. » Et une série d'expressions s'enchaînent pour illustrer leur immaturité. Il va dire qu'ils sont lents. Il va dire, vous avez besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Il va leur dire, vous avez besoin de lait. Il va leur dire, vous n'avez pas l'expérience de la parole de justice. Et il va leur dire aussi que vous êtes des enfants. Voilà, une description de personnes qui n'ont pas grandi, qui sont tellement attachées aux images et aux ondes de l'Ancien Testament, qui n'arrivent pas à comprendre que ça, tout est en Christ. Christ est l'aboutissement de tout ce que nous révèle l'Ancien Testament. Alors ces chrétiens ressemblaient à ceux que Paul décrit dans Éphésiens. Ils sont ballottés, les chrétiens qui ne sont pas mûrs, ballottés, emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais les chrétiens mûrs ressemblent quant à eux à Christ. Les destinataires de l'épître aux Hébreux restaient attachés au judaïsme et ne s'attachaient pas à Jésus. Cette mise en garde leur est adressée, mais elle nous est aussi adressée. Nous devons croître dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus. On ne peut pas rester aux choses élémentaires, à Jean 3,16. Et quand la Bible nous dit des choses, il faut que nous les méditions et que nous les mettions en pratique. Et nous avons besoin de croître, de grandir dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de la parole de Dieu, dans l'amour pour Dieu, dans l'amour pour la parole de Dieu, dans l'amour pour les frères et sœurs aussi, dans l'amour pour le service de Dieu et l'obéissance à la parole de Dieu. Sinon, nous stagnons avec le risque de retourner en arrière. Donc, faisons attention à ça. Nous sommes dans, pour l'instant encore dans un pays de liberté. On peut lire la Bible, on peut prier, on peut servir. Profitons de toutes ces occasions pour grandir. Il ne faut pas rester au stade de bébé. Un chrétien doit grandir, être capable de transmettre la parole, d'évangéliser et aussi peut-être expliquer certaines vérités à d'autres chrétiens. Alors, après le constat, il va donner un remède au verset 1 à 3. Il va leur dire un remède efficace. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Il les invite à dépasser les vérités simples de l'ancienne alliance et à tendre vers une foi aboutie en Jésus-Christ seul. Alors, on voit dans les éléments de la parole de Christ, une autre version traduit les bases de l'enseignement relatif au Messie, une autre version, la semaine, traduit les notions élémentaires de l'enseignement relatif à Christ. Ça, ce sont les bases, mais il ne faut pas en rester aux bases. Il faut progresser. Il faut tendre vers la maturité des croyances plutôt que du comportement. Ces Juifs restaient attachés trop à l'Ancien Testament. Et ils restaient attachés à un ensemble de croyances communes aux Juifs et aux chrétiens. Nous retrouvons dans ces choses-là quelque chose de commun, mais dans la Nouvelle Alliance, on va plus loin que ce qui est énoncé là. Alors, l'auteur les invite à se détacher de l'Ancienne Alliance pour entrer pleinement dans la Nouvelle Alliance, de ne pas rester attaché aux ombres, aux types, aux images, aux sacrifices de l'Ancienne Alliance, sans saisir la réalité de la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ. Alors, on peut dénombrer 6 éléments dans cet enseignement de base, et il va leur dire d'abord, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Dieu, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le renoncement aux œuvres mortes. Quand on parle des œuvres mortes, il s'agit simplement, dans l'Ancien Testament, d'abandonner le mal. C'est un enseignement qui est important dans l'Ancien Testament, mais qui n'est pas complet. Parce que pour nous, chrétiens, il ne s'agit pas seulement de nous repentir, mais il faut se repentir et se tourner vers Jésus-Christ. Et ça n'était pas clair dans l'Ancien Testament. Nul ne vient au Père que par moi. Quelqu'un qui a une foi sincère, quelqu'un qui se repentirait sincèrement, qui se tournerait vers Dieu sans passer par Jésus-Christ, n'arriverait pas à Dieu. Parce que c'est Jésus-Christ, c'est le chemin, le seul chemin qui nous mène à Dieu. Donc c'est vrai que l'Ancien Testament parle du renoncement aux œuvres mortes, d'abandonner le mal, mais c'est incomplet. Il faut placer sa confiance en Jésus-Christ pour que la repentance soit efficace et accomplie. Il a ensuite parlé de la foi en Dieu. Un deuxième élément de base, la repentance et la foi vont ensemble. Ce sont les deux faces d'une même pièce. La foi en Dieu est inefficace sans la foi en son Fils Jésus-Christ. Il y a des gens qui croient en Dieu, mais qui ne croient pas en Jésus-Christ. Ça n'est pas efficace. Il faut rajouter Jésus-Christ, parce qu'il est le chemin qui mène à Dieu. C'est pourquoi Pierre va dire dans sa prédication, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. » Les destinataires de la lettre aux Hébreux croient en Dieu, mais ne sont pas sauvés pour autant s'ils ne placent pas leur confiance en Jésus-Christ. La repentance et la foi en Jésus-Christ. Le troisième élément de base, c'est la doctrine des baptêmes. Alors, on pourrait être troublé par ce thème des baptêmes, mais quand on regarde le grec, on voit que ce terme, c'est baptismos, et il s'est traduit plutôt par ablution. Et le terme de baptizo, qui s'emploie pour le baptême, l'ordonnance du baptême, est différent des ablutions. Donc là, il s'agit de bains rituels d'ablution. Et on sait qu'à l'entrée de tous les foyers juifs, il y avait un bassin réservé à l'usage de la famille et des visiteurs pour les ablutions cérémonielles. Il y en avait beaucoup, ablutions nombreuses. Et ce sont de telles ablutions que les lecteurs sont encouragés à abandonner. et ces ablutions nombreuses, physiques, symboliques, temporaires. Mais il y a une ablution qui est nouvelle, celle de la Nouvelle Alliance, qui est unique, spirituelle et permanente. Il s'agit du bain de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit, dans Tite, chapitre 3 à 5. Et l'apôtre Jean en parle un peu quand, dans Jean 3, 5, quand il dit qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Et c'est vrai qu'Ézéchiel parlait déjà de qu'on allait être lavé d'une eau pure pour parler de cette union avec Christ, ce salut qu'on aurait reçu en Jésus-Christ. Toutes ces ablutions auxquelles étaient attachés les Juifs étaient des ombres, des images, et on ne devait pas rester attaché à ça. Il fallait chercher la naissance d'en haut. On voit aussi parler de l'imposition des mains, un quatrième élément de la liste. Eh bien, on sait que dans l'Ancien Testament, on plaçait ses mains sur un animal qu'on sacrifiait pour s'identifier à lui, à cet animal. Mais dans la Nouvelle Alliance, notre identification avec Christ ne passe pas parce qu'on place nos mains sur Jésus-Christ. On ne pourrait pas maintenant, puisqu'il n'est pas là. Mais nous sommes identifiés avec lui parce que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit et nous sommes identifiés ainsi à Christ, unis à lui par la foi. Vous voyez, il faut grandir dans la maturité des croyances et ne pas rester aux ombres et images, parce que l'Ancien Testament, c'est comme un livre d'images pour les enfants qui ne savent pas encore lire, et la révélation de Dieu était progressive, elle était la révélation de Dieu, mais elle n'était pas complète. Elle trouvait son aboutissement en Jésus-Christ, et ça nous est clairement montré dans le Nouveau Testament. Et enfin, il y a un cinquième élément dans la liste, la résurrection des morts. Alors, quand on regarde l'Ancien Testament, il n'est pas dit beaucoup de choses sur la résurrection des morts. On parle de vie après la mort, de récompense pour les justes, de châtiment pour les impies, mais pas grand-chose de plus. Job, tout au moins, nous parle de la résurrection corporelle et non pas spirituelle. Mais on ne va pas plus loin dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, la résurrection des morts est une doctrine importante et bien détaillée. 1 Corinthiens, chapitre 15, par exemple, détaille très bien la résurrection des morts. Et la résurrection trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie ». Donc l'auteur de la lettre encourage ses lecteurs juifs à ne pas se contenter de l'enseignement limité de l'Ancien Testament, mais de se plonger dans les réalités qui sont données dans la parole de Dieu. Enfin, le sixième élément de cette liste sur les enseignements de base, c'est le jugement éternel. Là aussi, l'enseignement n'est pas très détaillé dans l'Ancien Testament, mais il est abondamment détaillé dans le Nouveau Testament. Il nous est dit, pour nous croyants, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Il nous est dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 3 que nous ne serons pas jugés si nous sommes en Jésus-Christ, nous ne serons pas jugés. Par contre, ce sont nos œuvres qui seront jugées. Il nous est dit, parler aussi dans Matthieu chapitre 25, du jugement des brebis et des boucs. Dans Apocalypse chapitre 20, du jugement du grand trône blanc. Et il nous a dit aussi que le jugement a été remis à Jésus-Christ dans Jean chapitre 5. Voilà, en conclusion, l'auteur de la lettre exhorte les lecteurs hébreux à laisser les ombres et les symboles élémentaires de l'ancienne alliance pour saisir la réalité parfaite et mûre de la nouvelle alliance. Les lecteurs ont besoin de plus de christologie, de mettre leur confiance en Christ et pas dans les rites de l'Ancien Testament. Et notamment de mettre leur confiance dans le ministère unique et suffisant de Jésus-Christ. Alors après ce remède qui dit qu'il faut laisser les choses élémentaires et aller à quelque chose de plus abouti en Jésus-Christ seul, on voit qu'il y a là des versets 4 à 8, un avertissement sévère. Et il dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Et il donne un exemple en agricole. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, Elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. L'auteur de l'Épître est un peu inquiet face à la stagnation spirituelle de ses lecteurs. Ils sont arrivés à un certain bout de la carrière, mais ils se demandent est-ce qu'ils ne vont pas retourner en arrière comme les enfants d'Israël l'ont fait dans le désert. Ils ont suivi Moïse jusqu'à un certain bout, et quand il fallait prendre pleinement possession du pays, ils ont refusé d'entrer dans le pays et ils sont tombés. Est-ce qu'ils vont persévérer pour recevoir l'héritage du véritable enfant de Dieu, ou est-ce qu'au contraire, ils vont se révéler être de faux fils qui passent à côté du repos divin? On a déjà vu ça un peu dans les chapitres précédents. Et l'auteur sait aussi que lorsqu'il écrit une assemblée, quand on écrit une assemblée, il y a toutes sortes de personnes. C'est une assemblée hétérogène. Il y a des croyants authentiques, il y a des sympathisants, il y a des gens qui sont à la recherche, et puis il y a ceux qui se disent être croyants, mais qui n'ont pas encore été régénérés à l'intérieur. Ils pensent qu'ils sont chrétiens, ils parlent comme des chrétiens, ils agissent comme des chrétiens, mais le cœur n'a pas encore été changé. Et donc, l'auteur de l'Épître doit s'adresser à ces deux personnes. Il fait ce qu'on appelle la pédagogie différenciée. Voilà. Il faut quelque chose pour les uns les autres, dans le but de faire tout le monde progresser dans la connaissance du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ. Et donc, c'est le risque d'apostasie qui anime la rédaction de ces quelques versets d'Hébreux chapitre 6. Qu'est-ce que l'apostasie ? Eh bien, c'est l'acte par lequel quelqu'un qui fait profession de connaître Dieu finit un moment par renier le Seigneur. Et ça peut concerner des personnes qui ont marché un certain temps avec le Seigneur. Il arrive un moment, il quitte l'assemblée. Et on peut voir ça, on a pris l'exemple de Judas, il y a des disciples qui ont suivi Jésus un temps et qui n'ont plus suivi. Il y a ces juifs qui sont sortis d'Égypte et qui sont tombés aussi dans le désert. Il y a plein de personnes, et si vous avez un certain nombre d'années de vie chrétienne, c'est avec tristesse qu'on constate que certains de nos frères et sœurs quittent l'assemblée pour retourner dans le monde. Voilà. Sans compter même ceux qui sont dans les assemblées et qui ne montrent pas cette régénération intérieure. On a vu ça en étude biblique. Il y a des frères et sœurs qui sont, quand ils parlent du Seigneur, quand ils échangent avec vous, il y a un encouragement. Il y a d'autres qui sont là pour mettre le désordre. Donc, on peut dire qu'on est chrétien, mais Dieu sait, Dieu connaît le cœur. Nous ne pouvons peser que les actes, que les réactions. Nous ne pouvons pas voir le cœur. Mais les deux sont là, comme l'ivraie pousse avec le blé, comme les vierges et les folles. On a vu ça aussi. Comme les terrains, les quatre terrains, la semence est tombée sur le terrain pierreux, il n'a pas poussé du tout. Mais sur deux autres terrains, ça a commencé. Mais plein de problèmes ont fait que ça n'a pas porté du fruit. Et seul sur la bonne terre, ça a porté du fruit. Donc, c'est une mise en garde aussi. Et c'est une exhortation pour ceux aussi qui sont chrétiens à s'attacher au Seigneur. Et donc, il nous décrit des personnes qui ont été bénéficiaires de nombreuses grâces. Ce n'est pas des gens qui n'ont pas goûté aux bonnes choses. Il nous dit qu'elles ont été... Il était possible que ceux qui ont été une fois éclairés. Et on peut faire un parallèle avec les enfants d'Israël. Ils ont été éclairés par la colonne de feu. Tous ont bénéficié de la colonne de feu, dans Exode chapitre 13, verset 21. Ils ont aussi, nous a dit, qu'ils ont goûté le don céleste. Le don céleste aussi, dans l'Ancien Testament, c'est la manne qui descend du ciel. Eh bien, tous les Israélites ont goûté la manne. Et ceux qui ont goûté le don céleste dans ce texte ont été loin dans la foi. Ce n'est pas des novices. Il est parlé de don céleste aussi. Et bon, le don céleste, il y a la parole de Dieu, mais quel est le meilleur don céleste? Parce que la parole de Dieu va être nommée dans le verset 5. Ce n'est pas donc la parole de Dieu, c'est le don céleste, c'est Jésus-Christ même. Ils ont été, d'une certaine façon, confrontés à Jésus-Christ par l'Évangile, mais à cause de leur lenteur à croire ou de leur incrédulité, ils n'ont pas saisi Jésus-Christ pour ce qu'il était vraiment. Et quand on parle des Juifs, ils n'ont pas saisi que Jésus-Christ est l'aboutissement de tout ce que révélait l'Ancien Testament. Il est le temple, il est l'eau de vie, est le sacrifice parfait. Il est le sacrificateur parfait. Il connaît Jésus-Christ, mais pas vraiment pour ce qu'il est. Et ça, c'est terrible. Il nous a dit aussi qu'ils ont eu part au Saint-Esprit. Et les Juifs, les Israélites aussi dans le désert ont eu part au Saint-Esprit qui avait été donné à Moïse dans Nombre chapitre 11 verset 17. On peut dire même qu'ils n'ont pas pu avancer aussi loin sans l'influence du Saint-Esprit. Ces gens ont certainement vu des miracles. Hein? Mais ils n'ont pas été régénérés intérieurement. Ils ont vu des bonnes choses que l'Esprit de Dieu fait, mais ils n'ont pas été régénérés. On a dit qu'ils ont goûté, à verset 5, qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Ce sont des gens qui ont été enseignés, qui ont entendu l'Évangile, qui connaissent des choses sur les dieux. Mais la parole est restée en superficie. Il nous a dit aussi qu'ils ont goûté, ils ont goûté les puissances du siècle à venir. Et les Juifs partageaient le siècle en les temps en deux. Il y avait le temps présent avec les souffrances, le péché et tout cela, et le siècle à venir avec le temps messianique où c'était la joie, la paix, les souffrances étaient ôtées. Et ils nous ont dit qu'ils sont tombés verset 6. Ils sont tombés. Et c'est exactement le même mot que l'on trouve dans Nombre chapitre 14 et 33 pour décrire le jugement qu'a subi ceux qui n'ont pas voulu entrer en Canaan. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Ils n'ont pas, peut-être que, et comme les Juifs, comme les Israélites qui suivaient Moïse, ils voulaient que les choses se fassent facilement. Il fallait marcher par la foi pour conquérir Canaan. Il fallait être patient. Et par la foi se saisir des promesses de Dieu, par la foi avancer, mais n'ont pas voulu. Alors est-ce que ceux-là, ces Juifs-là, seraient tentés aussi à cause des épreuves? Parce qu'ils subissent des épreuves terribles, ils sont privés de leurs biens. Et la famille leur dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez abandonné la religion historique, le judaïsme, pour aller vers le christianisme. Mais c'est quoi cette affaire? Revenez. Donc de toutes parts, ils subissent des pressions. Il y a aussi les promesses du Seigneur qu'ils ne voient pas, qu'ils ne voient pas arriver tout de suite. Mais il faut être patient. Avec le Seigneur, il faut être patient. Et donc, certains pourraient retourner en arrière et donc ne plus placer leur confiance en Jésus-Christ. Et il prend un exemple agricole pour parler de ça. Il dit donc, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. La croix de Dieu, c'est par le monde en deux parties. Hein. Ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, et ceux qui n'ont pas passé leur confiance en Jésus-Christ. Voilà. Et donc, il va prendre un exemple agricole pour expliquer ça. Il dit, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, remarquez souvent, donc beaucoup de grâce, plusieurs fois la pluie tombe et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Elle participe à la bénédiction de Dieu. Et c'est vrai que quand la pluie tombe et qu'il y a de bons fruits, eh bien voilà, oui, cette terre, elle est fertile. Mais quand la même pluie, les mêmes conditions... pour les mêmes conditions, il y a une autre terre, mais c'est verset 8. Si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite et en finit par y mettre le feu. Le jugement de Dieu tombe. Voilà. Donc c'est quelque chose de très sérieux, notre profession de foi. On ne peut pas simplement dire je suis chrétien et puis rester au béaba. Il nous faut progresser, nous attacher au Seigneur, aimer le Seigneur, ne pas seulement compter sur les grâces que nous avons reçues, mais continuer par la foi et surtout nous attacher à lui, aimer sa parole, aimer les frères et sœurs et servir le Seigneur. Mais il y a quand même un optimisme que nous lisons au verset suivant, parce que l'auteur dit « Quoi que nous parlions ainsi bien-aimés, nous attendons pour ceux qui vous concernent des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Il y a des preuves qui sont sauvées parce qu'ils continuent à aimer les frères et sœurs, ils continuent à aimer le Seigneur, ils continuent à servir. Et ils montrent par là des fruits qui témoignent de leur conversion authentique. Donc l'auteur reste quand même optimiste. Il a le sentiment qu'ils ne vont pas retourner en arrière, que ce ne seront pas des apostats. Et les encourage donc à persévérer comme les hommes de foi qui persévèrent pour hériter des promesses. Nous désirons, verset 11, que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. On n'est pas sauvé pour attendre le Seigneur, là. Si, on l'attend, mais pas passivement. On n'est pas sauvé pour faire n'importe quoi, on est sauvé pour grandir, pour aimer le Seigneur, pour avancer et pas mettre le désordre. Être des gens de paix, des gens d'amour, parce que le Seigneur est un Dieu de paix et d'amour. Et là, il va nous parler, il va continuer à encourager, c'est là le dernier volet de notre prédication de ce matin, notre méditation. Il va parler d'une assurance solide, des versets 13 à 20. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, et ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux exhorte ses lecteurs juifs à abandonner le judaïsme, l'ancienne alliance, pour s'attacher entièrement à Jésus-Christ, à la nouvelle alliance. Les formes, les rites, les cérémonies, les pratiques de l'ancienne alliance doivent être abandonnées pour pouvoir se consacrer entièrement à Jésus-Christ. Mais sous l'ancienne alliance, comme sous la nouvelle alliance, l'élément capital a toujours été la foi. Pas les rites, pas les cérémonies, la foi, la foi, la foi. Et s'il y a un exemple remarquable de foi, c'est bien Abraham. La Bible l'appelle le père des croyants, le père de tous ceux qui croient, dans Romains chapitre 4, versets 11 à 12. Et Galates, Paul invite les Galates à reconnaître que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham, dans Galates chapitre 3, verset 7. Abraham est l'exemple parfait de l'homme de foi qui, dans l'adversité et devant tous ceux qui, pendant des années, semblaient contredire la réalisation des promesses de Dieu, a continué à faire confiance à Dieu. Voilà, Dieu lui avait promis une postérité, sa femme était stérile, ils ont attendu longtemps, ils ont attendu. Et même Abraham a obéi à Dieu, il était prêt à sacrifier son fils, et pourtant, c'était ce fils-là, par ce fils-là, que la promesse d'une postérité nombreuse allait se réaliser. Eh bien, Abraham n'a pas cherché à savoir les motifs du Seigneur, il n'a pas cherché à savoir les conséquences de son acte, il a obéi, parce qu'il avait confiance en Dieu. Et Hébreux 11 nous dit qu'il était persuadé que Dieu allait même ressusciter son fils. Et donc, il a fait cela par la foi. Et le chapitre 11 d'Hébreux va nous donner tout un exemple d'homme par la foi. Alors, quel bel exemple que celui d'Abraham pour ces Juifs qui étaient éprouvés et qui attendaient les promesses de Dieu sans les voir se réaliser et qui, au contraire, voyaient toutes sortes de difficultés. L'auteur de l'Épître aussi nous rappelle que c'est Dieu qui a fait la promesse à Abraham et Dieu est la vérité. Il ne ment pas. Il est incapable de mentir. Tout ce qu'il dit est vrai. Par conséquent, quand Dieu fait une promesse, lui-même fera en sorte qu'elle s'accomplisse. Les lecteurs de la lettre hésitent à abandonner le judaïsme. Ils n'arrivent pas à faire entièrement confiance à Jésus-Christ pour leur salut. Le Saint-Esprit les encourage ici à faire totalement confiance à l'Évangile, car Dieu tient toujours ses promesses. Paul rappelle à Tite la fidélité et l'intégrité de Dieu quand il parle de l'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. Dès les temps anciens, Dieu a promis la vie éternelle à ceux qui se confieraient en lui, et Dieu était capable de mentir. Jacques, chapitre 1, verset 17, parle aussi de la fidélité et de l'intégrité de Dieu quand il dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Dieu ne change pas. Il accomplit toujours sa volonté, ses promesses. Dieu promet le salut à tous ceux qui viennent à lui par Jésus-Christ, mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la parole de Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors nous pouvons faire totalement confiance à Dieu. Il ne peut pas mentir, il ne peut pas nous tromper. Dieu a dit à Josué par exemple, l'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point, ne t'effraie point. Deutéronome 31:8, avant que Josué conduise le peuple. Et il a dit aussi à Jacob, et Jacob quittait la famille avec en panique parce que son frère voulait le tuer. Il partait chez l'oncle Laban. Et Dieu lui a parlé sur son chemin et il a dit à Jacob, voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je dis. Dieu exécute ce que je te dis. Voilà. Donc quand Dieu nous dit quelque chose, nous pouvons avoir confiance, ce n'est pas nous, il est Dieu. Voilà, il est la vérité, le chemin, la vie, il ne ment point. Alors, permettez-moi de prendre un petit peu de temps encore, mais ce n'est pas trop long. L'auteur de la lettre veut souligner la grande valeur du serment de Dieu. Nous lisons, vous lisez avec moi, versets 13, 16 et 17. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et nous allons au verset 16. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. Vous savez que pour donner du poids à son engagement, un homme jure par plus grand que lui. À l'époque biblique, on pouvait jurer par l'autel, on pouvait jurer par le souverain sacrificateur, on pouvait jurer même par Dieu. À notre époque, on invoque la tombe de ma mère, voilà. Je te le dis sur la tombe de ma mère, sur la Bible, sur l'amour du ciel, voilà. On jure, et quand on jure, on dit que celui qui a juré, il va tenir sa promesse. Si vous jurez, c'est pour tenir votre promesse. Bon, les hommes sont les hommes, hein. Et il nous a dit que Dieu jurera par lui-même. Dieu par lui-même, parce qu'il n'est pas plus grand que lui. Il a juré par lui-même. Avait-il besoin de jurer? Non. Mais il veut nous donner confiance dans sa promesse. Donc il s'engage avec tout ce qu'il est. Il est un Dieu saint, un Dieu omniscient, un Dieu tout-puissant, un Dieu... Donc la réputation de Dieu est engagée. Et il n'était pas obligé de faire le serment, il n'était pas obligé de jurer, mais Dieu va prêter serment pour démontrer qu'il ne reviendra pas sur sa parole. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, le caractère irrévocable de sa décision, il intervient par un serment. Alors donc, Dieu a prêté serment pour donner plus d'assurance à ceux qui sont lents à quoi. Mais remarquez, il nous a dit, à qui Dieu s'adressait dans la Genèse, quand il a dit, certainement, je te bénirai. Abraham seulement? Quand on lit l'épître là, il nous a dit, c'est pourquoi Dieu voulait entrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. Il a fait la promesse à Abraham, mais c'est aussi à nous qu'il adresse la promesse. La parole de Dieu est vivante, frères et sœurs. Elle est permanente. Elle était adressée à Abraham, mais elle est aussi adressée aux Hébreux du 1er siècle, comme elle est adressée aussi à nous. Et nous pouvons l'apprendre avec tout ce que Dieu dit est vrai. Ce qui était dit dans le passé, c'est accompli. Ce qui est dit dans le temps biblique, c'est accompli. Et ce qui est dit là pour nous, nous pouvons nous attacher à la parole de Dieu. Elle est vivante et permanente, elle est efficace. Et au verset 18, il nous a dit, « Afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. » Alors on se demande, mais quelles sont ces deux choses immuables dont il est question? Eh bien, quand le contexte du chapitre nous montre que c'est la promesse de Dieu et le serment de Dieu. C'est deux choses immuables. Et c'est donc cette promesse, c'est le serment par lequel il a appuyé la promesse. La promesse était déjà suffisante. Mais Dieu a mis une autre couche, voilà, comme on dit. Il a passé deux couches pour que le peuple de Dieu lui fasse confiance parce qu'il est impossible, impossible que Dieu mente, il nous a dit. Donc Dieu veut que nous soyons doublement encouragés quand il donne, quand il fait les promesses. Alors il a prêté serment. L'auteur de l'Épître continue en démontrant que la promesse faite à Abraham il y a 4000 ans s'est réalisée en Christ. Elle est actuelle pour le croyant d'aujourd'hui, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Nous étions exposés à la colère de Dieu, nous étions exposés au jugement de Dieu, nous étions incapables de nous sauver nous-mêmes. Notre seul refuge a été le sang de Christ, de se saisir de cette espérance. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Acte chapitre 4, verset 12. Et Paul décrit son sauveur en ces termes, Jésus-Christ, notre espérance. Il parle aussi dans Tite 1, 2, de l'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles. Cette espérance est certaine, frères et sœurs. Cette espérance, nous la possédons. Ce n'est pas nous la possédons, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide, verset 19. Ça veut dire que cette espérance, nous voyons qu'elle est attachée à un lieu particulier. Et nous est dit au verset 20, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Le voile nous rappelle le tabernacle terrestre qui était dressé. Il y avait une première partie, le lieu saint, une deuxième partie, le lieu très saint. Le voile séparait les deux. Alors les sacrificateurs pouvaient officier dans le lieu saint tout le temps, mais une seule fois par an, le souverain sacrificateur traversait le voile et entrait dans le lieu très saint pour offrir le sacrifice d'expiation. Mais il devait le faire chaque année. Mais ça, c'est l'ancienne alliance. Mais sous la nouvelle alliance, le sacrifice d'expiation était fait une fois pour toutes à la croix. On s'en est rappelé encore avec la scène par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a pénétré dans le ciel même, le lieu saint céleste, le lieu très saint céleste, et il ne l'a pas quitté. Parce que les souverains sacrificateurs, ils entraient, mais il ne fallait pas qu'ils restent longtemps. Il y avait même des clochettes, il y avait une cordelette attachée à leurs pieds. S'ils mouraient pour les tirer de cette affaire, ils ne restaient pas longtemps, juste offrir le sacrifice et ressortir. Chaque année, parce que ce n'était pas efficace vraiment. Mais Christ s'est offert une fois pour toutes, pour notre salut. Et il n'a pas quitté le ciel, comme le faisait le souverain sacrificateur de l'ancienne alliance. Christ a fait la purification des péchés et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très saints. Donc, frères et sœurs, notre espérance est auprès de Dieu lui-même. Et de Dieu seul, c'est pas Dieu avec les prophètes et tout ça, c'est Dieu seul. Jésus-Christ, notre sauveur, est dans les lieux très hauts. Et il reste à jamais comme le gardien de notre âme, c'est lui. Et je ne me rappelle plus de qui je lisais, qui disait, mais qui avait des doutes à propos de son salut, il disait, mais mon salut n'est pas sur terre, il est au ciel. C'est Dieu qui veille sur mon salut, voilà. C'est Jésus-Christ a été, et remarquez ça, ça va être la fin, Jésus-Christ a été fait sacrificateur pour toujours. Les sacrificateurs, souverains sacrificateurs de l'époque lévitique n'étaient pas pour toujours, ils n'étaient pas permanents, mais Jésus-Christ l'est pour toujours. Son statut est permanent, à la différence des souverains sacrificateurs de l'ancienne alliance. En tant que souverain sacrificateur, Jésus-Christ intercède continuellement pour nous. De plus, il est entré dans le ciel pour nous comme précurseur. Qu'est-ce qu'un précurseur ? Un précurseur, c'est quelqu'un qui ouvre la voie. Et il assure l'arrivée saine et sûre de ceux qui le suivent. Donc il a ouvert ça pour nous, il nous a dit. Il a été pour nous comme précurseur. Alors nous n'avons pas à avoir peur de perdre notre salut. Nous pouvons mettre notre confiance en Jésus-Christ et surtout dans toutes les promesses de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, je vais prier. Seigneur, toi seul connais les cœurs et ta parole est pour toute l'assemblée, que ta parole aille dans les cœurs de chacun et fasse son travail pour ta gloire, pour le salut des âmes, pour l'affermissement des frères et sœurs, pour l'amour pour ta parole, pour l'amour pour ton nom, pour l'amour pour ta gloire, pour le service aussi, et que vraiment tu sois glorifié dans nos vies. Que ton nom soit béni. Amen.